It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 11 des années chez le psy et rien. Cet épisode fait quelque part suite à l'épisode 10 sous emprise de parents toxiques, comment trouver un bon thérapeute. Pour être totalement transparente avec vous, je n'ai jamais eu affaire à des psys, que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes, psychiatres, psychanalystes ou même thérapeutes. En revanche, dans la sphère privée et professionnelle, j'ai été amenée à rencontrer et côtoyer pas mal de personnes qui ont eu affaire à des psys. Ce qui m'a toujours choquée, c'est que quel que soit le parcours de vie de ces personnes, amis, collègues, connaissances ou clientes, elles partageaient toutes, sans exception, le même point commun. Celui d'avoir été suivi pendant des années, 10, 15 ans, par des psys, ou celui de courir encore et encore de psy en psy depuis des années, sans réel résultat. En toute sincérité, lorsqu'elles me partageaient leurs expériences, je n'avais qu'une phrase qui n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Lorsque tu rencontres une ou deux personnes qui est confrontée à cette problématique, tu te dis bon, même si pour ma part, je considère que c'est déjà trop. Mais lorsqu'au fil des années, ça devient plus que récurrent, au point d'en devenir pratiquement la norme, là, on ne peut plus nier le problème. Alors soit c'est moi qui attire ce genre de cas, que ce soit en France ou à l'étranger, soit il y a un véritable problème du côté des professionnels. Je pense que c'est un peu des deux, vu que c'est une cible en lien avec ma mission de vie. Mais en toute humilité, permettez-moi de privilégier l'option numéro 2, problème indéniable du côté des professionnels, en tout cas de certains professionnels. Je ne veux surtout pas tous les mettre dans le même panier. Mon optimisme me pousse à croire que parmi les 7 milliards de personnes qui vivent sur cette terre, il doit forcément en avoir de très bons. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont rares, sinon il n'y aurait pas autant de plaintes. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a comme une part de chance, de timing, de discernement et surtout de persévérance pour trouver le ou la psy qui correspond aux critères évoqués dans l'épisode 10. Lorsque je rencontre ces personnes qui traînent les souffrances de toute une vie avec elles, ça me fait mal au cœur. Je me dis quel gâchis. Ces personnes-là, lorsqu'elles me partagent leurs expériences, même si je ne les ai pas connues au moment où elles ont commencé leur aventure avec leur psy, en les écoutant, en voyant la détresse, le désespoir dans leurs yeux et en faisant un check-up de leur vie, je constate très rapidement qu'entre le premier jour où elles ont rencontré leur psy et le moment de notre rencontre, il n'y a pas spécialement eu d'évolution, ou sinon très peu. Qu'il se soit passé 10, 15 ans, 20 ans ou plus, elles en sont pratiquement au même point, dans le meilleur des cas, où la situation s'est empirée dans le pire des cas. Et ça, je le répète, c'est tout sauf normal. Qu'est-ce qui fait qu'entre le ou la patiente et le psy, il y a comme une sorte de mésentente, de conflit interne entre eux, comme si tout était dans le non-dit. En gros, qu'est-ce qui fait que la sauce ne prend pas? Qu'est-ce qui fait qu'après tant d'années passées chez le psy, il n'y a toujours rien qui se passe, comme si vous étiez resté au point mort? Ces questions, je me les suis longuement posées parce que ça m'intriguait et parce que j'étais régulièrement confrontée à cette problématique en coaching. Je les ai également posées sur les réseaux sociaux, dans des groupes spécifiques aux parents toxiques. J'ai bien évidemment mené mon enquête auprès de mes clientes et lu des articles et les rares livres qui osait aborder cette question pour connaître les raisons de ce flop entre patient-psy. L'objectif de cet épisode est donc de tenter de vous partager les différentes raisons qui expliqueraient l'incapacité de la majorité des psys à répondre aux attentes de leurs patientes ou patients concernant les traumatismes d'enfance liés à la toxicité de leurs parents. Je vais me baser comme d'habitude sur mes observations, mes constats et sur les travaux d'Alice Miller, experte en psychanalyse. C'est parti. Première raison. Le parent figure d'autorité. Nous avons vu dans les épisodes 2 et 3, parents toxiques, sujet tabou, et parents toxiques et principe d'honneur, que la société en général et les différentes institutions s'appliquaient scrupuleusement à ne pas ternir l'image du parent, considéré comme véritable figure d'autorité et bien souvent hissé au rang de demi-dieu, quels que soient ses agissements. C'est ainsi que pour protéger et surtout conserver dans la mémoire collective l'image idéale du parent irréprochable et protecteur à tous égards envers sa progéniture, la société préférera qualifier les actes déviants du parent de cruels, de barbares, inhumains, toxiques, plutôt que de qualifier ouvertement le parent de ces mêmes termes. Autrement dit, la stratégie convenue par la majorité sera d'entretenir le déni en évitant d'associer le parent à des termes péjoratifs. De cette manière, l'honneur du parent restera sauf au détriment de celui de l'enfant qui restera profondément isolé et incompris dans son combat et bien évidemment profondément meurtri par ses blessures. Je ne vais pas détailler plus que ça cette partie de parents figure d'autorité, dans la mesure où j'en ai longuement discuté dans les précédents épisodes. Pour en savoir plus, je vous invite donc, si ce n'est pas encore le cas, à écouter les épisodes 2 et 3. Deuxième raison, fuite devant la douloureuse réalité, la souffrance des enfants. Parce que l'intérêt pour la société est de véhiculer l'image du parent parfait, les professionnels de la santé, j'entends par là les différents psys, s'accorderont pour totalement ignorer ou minimiser les souffrances de l'enfant devenu adulte. Par quels moyens et sous quelle forme? Principalement en refusant catégoriquement d'associer les souffrances actuelles du patient aux traumatismes causés durant son enfance par le père ou la mère toxique, voire les deux. Cette prise de position totalement assumé de ne pas explorer le terrain de l'enfance, revient sans ambiguïté à nier et même à mépriser totalement la souffrance de l'enfant. Le fait même d'exprimer un tel mépris vis-à-vis de son patient concernant ses traumatismes d'enfance n'est clairement pas anodin. Encore une fois, tout est stratégiquement et minutieusement bien pensé pour protéger et préserver l'image que l'on veut intacte du parent irréprochable, bien sous tout rapport. Ce que les psys n'ont pas l'air de vouloir comprendre, c'est que le terrain de l'enfance est une véritable mine d'or. S'ils sont véritablement soucieux d'aider leurs patients, s'ils les aiment vraiment, ils prendront leur courage à deux mains pour exploiter ce terrain. Alors certes, il sera rempli de mauvaises herbes accumulées au fil des ans, mais c'est parmi ces mauvaises herbes qu'ils trouveront des pépites, à savoir les causes actuelles des souffrances que vivent leurs patients devenus grands. En gros, s'ils veulent comprendre et surtout cesser de considérer leurs patients comme des énigmes, ils n'ont pas d'autre choix que de se plonger dans le monde de leur enfance. Après, je n'ai pas fait d'études de psychologie, de psychothérapie, de psychanalyse, co. Mais le peu que je sais, c'est que la matière première avec laquelle ils sont censés travailler, c'est le passé. Si j'ai bien compris, l'objectif est d'investiguer dans le passé, d'aider le ou la patiente à découvrir l'origine des événements traumatisants, de l'aider également à les comprendre pour faire le lien entre ce qu'ils ont vécu par le passé et les répercussions que ça a dans leur vie actuelle. L'objectif étant qu'ils guérissent en se réconciliant avec leur passé pour mieux aborder leur vie présente et l'avenir. Or, si je ne m'abuse, l'enfance, pour le ou la patiente devenue adulte, fait indubitablement écho au passé. Mais pour éviter de s'immerger dans le monde vulnérable et hostile, dans notre cas, de l'enfance, et aussi pour éviter de s'ériger en juge des parents quasi intouchables, les différents psys feront la sourde oreille aux différents appels du pied de leurs patients. Comment procéderont-ils pour éviter le douloureux et épineux sujet de l'enfance durant les consultations? Comme je l'ai dit auparavant, il y a des psys qui vont sans aucun scrupule balayer d'un revers de main le lien entre traumatisme d'enfance et les souffrances présentes de l'adulte, alors que bien souvent, les souffrances de l'adulte proviennent de l'enfance. Je vais illustrer ce constat en vous lisant différents extraits du chapitre intitulé « L'évitement de la réalité de l'enfance dans la psychothérapie » tiré du livre « Libre de savoir, ouvrir les yeux sur notre propre histoire » d'Alice Miller. Sans doute va-t-il de soi pour les profanes que les psychothérapeutes s'occupent de l'histoire de l'enfance de leurs clients. Pourtant, ce n'est nullement la règle. Au contraire, de nombreuses méthodes de psychothérapie ne se penchent pas sur l'enfance ou ne l'abordent qu'occasionnellement lorsque cela apparaît inévitable. De très nombreux thérapeutes sont même d'avis qu'il est néfaste de s'occuper de l'enfance du patient, parce que alors celui-ci se vit comme victime et non comme l'adulte responsable qu'il est à présent. Je pense moi aussi que l'adulte est responsable de sa conduite, c'est seulement dans son enfance qu'il était une victime sans défense. Mais d'après moi, prendre connaissance de cette histoire peut précisément l'aider à saisir pourquoi il se sent toujours une victime sans défense. La psychothérapie peut lui apprendre à comprendre ses mécanismes et à abandonner l'attitude de victime. Autre stratégie savamment mise en place pour éviter de déterrer les cadavres de l'enfance, les fameux médicaments, somnifères, antidépresseurs, etc. Je ne vais pas m'étaler sur la problématique des médicaments car, encore une fois, je ne suis pas une experte dans le domaine et j'ai eu cette grâce de ne pas en avoir eu besoin durant les 30 années de toxicité. En revanche, j'en ai connu autour de moi. Je ne dis pas que ces médicaments sont mauvais, je ne me permettrai pas de le dire puisque je n'ai pas d'expérience personnelle à ce niveau-là. En revanche, ce dont je suis certaine, pour l'avoir vu, c'est que prescrire pendant des années ce genre de médicaments, sans vouloir traiter le véritable problème à la racine, ça produit forcément des dégâts. En effet, à long terme, c'est totalement néfaste pour la santé du patient. Ce genre de médicament ne guérit pas spécialement. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai. Pour moi, et quand je dis ça, je marche sur des œufs, un médicament efficace, un médicament qui guérit vraiment, qui fait complètement le job en ciblant la maladie, c'est un médicament qui éradique, qui supprime, qui tue les symptômes de la maladie une bonne fois pour toutes et qui te remet d'aplomb au bout de quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années selon la gravité de la maladie. Pour moi, un médicament qui te soulage sur le court terme, qui te rend complètement dépendant, qui endort tes émotions pour un temps pour les réveiller des fois sans crier gare et qui t'assomme littéralement au point de devenir une loque humaine, excusez-moi du terme, ce n'est pas du tout une critique, mais un constat pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'est plus une drogue qu'autre chose. Ça agit sur le moment, et au fil des heures, les effets s'estompent, et tu dois en reprendre continuellement, sans réelle amélioration. Alors, dans notre cas, la solution est ailleurs. Mais la majorité des psys refusent de l'explorer. Clairement, ça reste mon avis et je l'assume. Ce n'est pas un médicament, mais une drogue dont les psys participent sans scrupule à votre dépendance pour leur plus grand confort. Ne pas se prendre la tête avec vos traumatismes d'enfance. Si ces médicaments étaient efficaces sur le long terme, une fois arrêtés, on n'aurait pas tous les dégâts que l'on voit ou que l'on entend des fois à la télévision. Monsieur ou Madame X a commis un acte irréparable suite à l'arrêt de ses antidépresseurs, par exemple. Pour ma part, je considère aussi ce genre de médicament comme une sorte de sparadrap que l'on met sur une blessure non traitée. A-t-on idée de poser un pansement sans prendre le soin auparavant de désinfecter la blessure? Non. Alors pourquoi le faire lorsqu'il s'agit des blessures de l'âme? Les psys peuvent toujours dire « ça ne se voit pas, donc on fait ce que l'on peut ». Non, je ne valide pas cette réponse. On fait ce que l'on peut lorsque l'on ignore d'où proviennent les blessures. Mais lorsque l'on connaît leur origine, on doit faire ce qu'il faut. Il ne s'agit plus de possibilités, mais de devoirs. Nuance. On parle d'êtres humains qui ont de la valeur, une valeur inestimable. Donc, on respecte. On respecte. Je vais vous lire un autre extrait d'Alice Miller, toujours tiré du même chapitre concernant la problématique des médicaments. Le travail sur l'enfance peut donner accès à une mine d'éclaircissement. Et il est très regrettable que l'actuelle formation des psychiatres accorde une place essentielle dans le traitement à la prescription de médicaments. Certes, une dose régulière de dopamine se montrera bénéfique pour un malade dont le cerveau n'en produit pas, mais cela ne permet pas de savoir pourquoi son cerveau ne sécrète pas cette substance. Pourtant, la réponse à cette question pourrait apporter la clé d'une véritable guérison. Tel ou tel produit pharmaceutique peut apporter une aide transitoire, en particulier lorsque le patient ne s'intéresse pas aux origines de sa maladie. Dans ce cas, le médecin n'a pas d'autre choix que la prescription de médicaments. Cependant, de nombreux psychiatres s'en contentent, même lorsqu'une exploration des causes des troubles serait possible. Je trouve problématique la tendance actuelle à accompagner les psychothérapies d'une pharmacothérapie, car la plupart des sédatifs affaiblissent l'intérêt porté par le patient aux événements traumatisants de son enfance, occultent davantage encore la réalité de ses premières années et de ce fait réduisent sensiblement les chances de succès d'une psychothérapie. Une femme appartenant à une famille de ma connaissance a souffert pendant plus de 20 ans de graves dépressions, qui parfois la clouaient au lit parce qu'elle refusait de s'alimenter et n'avait pratiquement plus la force de se lever. Elle avait été traitée par d'innombrables médecins avec des produits pharmaceutiques, mais aussi dans des entretiens. Ils obtenaient des rémissions, mais qui étaient suivies de terribles rechutes. Lorsqu'un jour, j'ai rencontré par hasard son mari, et lui ai demandé de ses nouvelles, il m'a dit qu'il était désespéré par l'autodestruction à laquelle se livrait son épouse. Je lui ai demandé si diverses thérapies avaient mis au jour quelque chose sur son enfance. « Mon Dieu !» s'écria-t-il, ça la tuerait. Il connaissait ses deux parents qui se comportaient de façon très tyrannique envers leur fille. Le couple avait une agence de voyage. Un jour, c'est la femme qui a répondu à mon appel téléphonique et j'en ai été frappée. Elle n'avait plus la même voix. Je lui ai demandé comment elle allait et elle m'a appris qu'elle n'avait plus de dépression depuis un an, bien que les affaires ne soient pas précisément florissantes. Mais son état s'était rapidement amélioré lorsqu'elle avait trouvé une thérapeute qui ne lui donnait pas de pilules mais lui faisait raconter son enfance. Elle avait traversé une période difficile mais se sentait constamment accompagnée et elle avait réussi à déceler les origines de sa maladie. Elle se sentait à présent beaucoup plus forte, avait pris du poids et surtout, elle était heureuse de se retrouver elle-même, de ne plus avoir l'impression d'être aliénée par les médicaments. Son mari, qui l'aimait et voulait l'aider, croyait, comme tous les médecins et psychiatres précédemment consultés, qu'il fallait lui épargner la vérité, qu'elle était trop faible pour la supporter. Pourtant, c'est précisément la vérité qui l'a sauvée. Lorsqu'elle a pu cesser de se mentir, elle a trouvé la force de voir l'entreprise de destruction de ses parents, de la percevoir si clairement qu'elle ne s'est plus sentie obligée de la poursuivre. Dans cet extrait, vous pouvez constater que ce qui a permis la délivrance de cette femme, c'est le fait d'avoir exploré avec l'aide de sa thérapeute son enfance. Encore une fois, je précise que je ne diabolise pas les médicaments, mais dans le cas de lourds traumatismes, surtout lorsqu'ils sont mal administrés et encore plus lorsque le problème est ailleurs, prescrire un médicament sans savoir où se loge le problème ou pire, en l'évitant, c'est manquer la cible. Afin que vous compreniez encore mieux, je vais vous lire l'extrait d'un livre, « Dieu contre le rejet », écrit par Derek Prince. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que j'étais en service comme aide médicale dans le désert d'Afrique du Nord, je travaillais avec un homme qui était plutôt un brillant médecin. Une bombe était tombée d'un avion ennemi quelque part près de nous et un de nos soldats avait été frappé par un éclat d'obus. Il était venu dans le centre d'accueil avec une petite marque de piqûre noire sur l'épaule. Comme j'étais très prévenant et que j'essayais d'aider et de faire la bonne chose, j'ai dit au docteur « Voulez-vous un pansement ?» Et le docteur m'a répondu « Non, apportez-moi la sonde. » Aussi, je lui tendis le petit bâton argenté et le mit dans la blessure et l'actionna tout autour. Rien ne se passa pendant quelque temps. Puis la sonde heurta le petit éclat d'obus à l'intérieur et le patient laissa échapper un cri. Le docteur sut qu'il avait trouvé le problème. Je lui dis alors, « Voulez-vous que je vous prépare le pansement ?» Il me répondit, « Non, apportez-moi le forceps. » Il prit le forceps et enleva l'éclat d'obus. « Maintenant, me dit-il, donnez-moi le pansement. » Dans cet extrait, avant d'apposer le pansement sur la blessure, le médecin observe scrupuleusement deux étapes très importantes. Première étape, il cherche avec la sonde où se trouve exactement la blessure. Dans notre cas, les blessures se situent pendant la période de l'enfance. Deuxième étape, une fois le problème trouvé, il se préoccupe de chercher la cause du mal. Il utilise pour cela le forceps pour extraire l'origine du mal, l'éclat d'obus. Dans notre cas, il faudra extraire petit à petit toute la toxine absorbée au fil des années. C'est ensuite, une fois la blessure traitée, que le médecin y appose le pansement afin que la blessure cicatrise progressivement. Dans notre cas, les médicaments ou d'autres traitements pourront éventuellement aider à la guérison. Malheureusement, la plupart des psys préfèrent brûler les étapes et appliquer directement un pansement sur les blessures sans se préoccuper ni de l'origine ni de la cause de ces dernières. Autre stratégie de certains psys, les fameuses théories dont eux seuls ont le secret. Pour nous bassiner de théories afin de légitimer leurs actes, ils sont fortiches. Donc pour appuyer cet argument, je vais vous lire cette fois un extrait d'Alice Miller tiré de l'ouvrage « Ta vie sauvée enfin ». Les mêmes modèles de dévalorisation, de manque de soins, de despotisme, de sadisme se retrouvent souvent sur plusieurs générations. Les théories qui naissent les unes après les autres n'ont d'autre fonction que de détourner de cette épouvantable réalité. Par exemple, selon une tentative d'explication élaborée par quelques psychologues, leurs patients ne souffriraient pas de leur propre enfance, mais de l'histoire et des problèmes de lointains ancêtres qu'ils chercheraient à résoudre par leur maladie. Ce genre de thèse permet de se tranquilliser, de s'épargner la vie de l'enfer vécu par le patient dans son enfance et du même coup, l'indignation. Cependant, à l'instar de l'explication par la génétique, c'est uniquement une fuite devant la douloureuse réalité. Et de nombreux intellectuels n'hésitent pas à accorder foi à de semblables théories. Vous pouvez le voir, pour éviter de mettre les mains dans le cambouis, les théories ont bon dos. Autre stratégie fortement appréciée et utilisée, le bavardage inutile. Les psys vont essayer de noyer le poisson dans l'eau en vous faisant raconter tout et n'importe quoi pour éviter d'aborder le véritable problème. Ça a été le cas d'une de mes clientes, Sonia, dont le témoignage est sur mon site. Donc sans rentrer dans les détails, je vous partage avec son accord son témoignage. Des années auparavant, quand elle était plus jeune, Sonia avait consulté des psys sans résultat suite à de graves traumatismes subis durant son enfance, liés en particulier au rejet de son père, rejet qui a eu de très graves conséquences dans sa vie de jeune adolescente, de jeune adulte et dans sa vie de femme. Bien des années plus tard, lorsque nous nous sommes rencontrés et que l'on a commencé à travailler ensemble, elle voyait à nouveau une psychologue qui la suivait depuis un an et demi. Suite à un webinaire que j'avais organisé intitulé « Comment sortir de l'emprise des parents toxiques », elle m'a fait part du fait qu'elle souhaitait travailler avec moi parce que, avec sa psy, elle commençait à tourner en rond et qu'en un an et demi, elle n'avait pas spécialement avancé. Au préalable, nous avons eu un entretien d'une heure, ce qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur elle, son parcours, ses attentes, l'objectif qu'elle souhaitait atteindre à l'issue du coaching et surtout si elle était apte, psychologiquement parlant, à suivre des séances de coaching. Parce qu'il m'est arrivé de refuser de coacher des personnes qui étaient psychologiquement très faibles en leur expliquant que pour le moment, la priorité était d'être suivie par une bonne psy plutôt que par une coach. Même si sur le moment, on peut sentir de la déception de leur part, je préfère être honnête avec elles. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Revenons à Sonia. Lorsque je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait depuis un an et demi avec sa psy, elle m'a dit pas grand-chose, qu'elle parlait de ses parents et de choses et d'autres de la vie. Pour faire bref, c'était de la conversation de comptoir. Nous avons travaillé ensemble sur son objectif en mettant en place un plan d'action clair et précis. Et très rapidement, au fil des séances, elle a fait d'énormes progrès. C'était très impressionnant et jouissif, il faut le dire. Déjà, dès la première séance, elle m'avait dit que le travail que je fournissais en termes de dynamisme et de profondeur n'avait rien à voir avec ses séances chez sa psychologue. Son entourage, ses amis, ses collègues, son patron et même sa psychologue ont remarqué des changements sans qu'ils sachent qu'elle était suivie par une coach. Ils voyaient qu'elle gagnait plus en assurance, qu'elle osait plus, qu'elle était plus épanouie, qu'elle arrivait mieux à gérer ses émotions. Sa psychologue a fini par lui dire qu'elle avait remarqué énormément de changements en elle et voulait en connaître les raisons. Sonia a été franche et lui a dit qu'en parallèle de ses séances avec elle, elle était suivie par une coach car elle avait besoin d'avancer et si elle se contentait uniquement de son travail à ses côtés, elle n'évoluerait pas. Ce qui m'a également frappée, c'est que Sonia m'avait partagé lors de notre deuxième séance que la veille, elle venait de faire un exercice avec sa psy, type d'exercice que je lui avais proposé dès notre première séance. En fait, c'était un exercice de base qui lui a été proposé par sa psy seulement un an et demi après. Et le plus surprenant, c'est que Sonia m'a dit que sa psychologue, durant l'exercice, avait été surprise de prendre connaissance des événements marquants et traumatisants de ses jeunes années. Elle lui a dit texto, je ne savais pas que vous aviez vécu tout ça. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Vous vous côtoyez depuis un an et demi. Elle te consulte par rapport à son mal-être lié à ses blessures d'enfance. Et toi, tu t'étonnes de découvrir seulement après un an et demi tous les événements marquants en lien avec ses traumatismes. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que non. Quand Sonia me dit que des fois, elle ne savait pas de quoi parler et qu'elle essayait de trouver des sujets de conversation, il y a un problème. Tout ça pour dire que semaine après semaine, sa psychologue constatait des résultats tangibles grâce au coaching. Elle voyait vraiment Sonia s'épanouir et gagner en confiance de jour en jour en laissant derrière elle toutes ses peurs. Sa psychologue commençait franchement à être mal à l'aise et a fini par lui demander comment elle pouvait l'aider car elle voyait qu'elle ne lui apportait pas grand-chose. Elle a même fini par lui suggérer de faire une pause dans les séances afin que Sonia réfléchisse à la manière dont elle pouvait l'aider et si Sonia souhaitait continuer de travailler avec elle. À présent, je vais vous partager le petit témoignage spontané qu'elle m'a laissé seulement 3 semaines après qu'on ait commencé à travailler ensemble. Tu es béni coach, car petit à petit, je commence à aimer, à prendre soin de moi, de mon cœur, de mon âme, de mes pensées. Je ne pensais pas que ce coaching avec toi me ferait tant de bien. Je rends grâce à Dieu de t'avoir placé sur ma route afin qu'il puisse guérir des blessures en moi. Ce changement ne se voit peut-être pas trop encore, entre parenthèses, ça ne fait que 3 semaines, mais je reprends confiance en moi et mon image de moi-même devant un miroir a changé. Des années avec des psys et pas de grands changements et toi, tu arrives et des choses se déverrouillent. Merci coach. Ah, j'aime être coach. 3e raison qui pourrait expliquer la passivité assumée des psys vis-à-vis de leurs patients. Le respect de la neutralité et le refus de l'indignation. Dans son livre « Ta vie sauvée enfin », Alice Miller explique que pour accompagner le patient ou la patiente dans son cheminement vers la guérison, les psys doivent éviter toute neutralité dans leur attitude. Elle les invite donc à manifester ouvertement de l'indignation face aux actes de cruauté subis par l'enfant. Autrement dit, ils doivent reconnaître l'existence et la cruauté des maltraitances subies par leurs patients durant leur enfance sans systématiquement se ranger du côté des parents comme ils le font habituellement. Ils doivent donc cesser de nier les souffrances de l'enfant. En fait, Alice Miller affirme qu'il est indispensable que les professionnels cessent d'être dans le déni en idéalisant le parent ou en le portant au nu. Si vous voulez, il est absolument nécessaire qu'ils reconnaissent la toxicité des parents. Elle souhaite par là qu'on arrête d'excuser la maltraitance des enfants en se retranchant derrière une pseudo-éducation « je te bats souvent, je crie sur toi, mais tu l'as mérité, c'est pour ton bien ». Non. Comme je l'ai précisé dans les tout premiers épisodes, le parent a des droits, mais aussi des devoirs qui doivent exclusivement être dans l'intérêt de l'enfant. Le fait qu'un professionnel puisse montrer de l'indignation ou un sentiment de révolte, ça peut littéralement changer la donne au bénéfice du patient. En effet, ça peut véritablement faire office d'électrochoc. Je m'explique et vous allez comprendre. Souvent, face à de lourds traumatismes, l'enfant ou l'adulte devenu grand raconte les drames de leur vie. Et quand on les observe ou les écoute, rien qu'en fermant les yeux, on a l'impression qu'ils sont comme anesthésiés et sans émotion. C'est pas qu'ils sont calmes, genre peace and love, rien à voir. C'est qu'en fait, ils ont été très tôt déconnectés de leurs émotions. Parce que dès leur plus jeune âge, on leur a appris, on leur a interdit de ne pas les manifester. Ou alors, suite à de profonds traumatismes, il y a eu comme une sorte de cassure, comme une sorte de mécanisme de défense qui s'est enclenché pour faire barrage aux émotions et donc fonctionner en mode automatique, en mode robot, afin de ne pas ressentir les émotions et survivre tant bien que mal à ces atrocités. Est-ce que ça parle à certaines personnes ? Donc le fait de montrer son indignation, ça va déclencher une sorte de prise de conscience du côté du patient concernant la gravité de ses traumatismes. En effet, face aux mimiques, aux grimaces et aux remarques du psy, il va finir par réaliser que sa situation était loin d'être normale. Pire, était très grave. Vous voyez qu'Alice Miller, contrairement à ses ex-confrères et consœurs, est complètement à contre-courant en dénonçant la neutralité, c'est-à-dire le fait d'être impénétrable, de paraître indifférent et sans émotion face aux patients. Elle est également à contre-courant en encourageant fortement l'indignation. Maintenant que j'ai dégrossi l'idée de neutralité et d'indignation, je vous partage ce qu'elle en dit. Dans ma formation de psychanalyste, j'ai appris qu'il était extrêmement important que l'analyste reste neutre. Cela faisait partie des règles fondamentales considérées depuis Freud comme incontestables et à observer rigoureusement. À cette époque, je ne pensais pas encore que cette règle était en rapport avec l'obligation de préserver les parents, de ne leur adresser aucun reproche. Mes confrères semblaient n'avoir aucun problème pour maintenir cette neutralité, aucune envie de jeter un regard compatissant sur les souffrances d'un enfant battu, humilié et victime de pratiques incestueuses. Peut-être certains d'entre eux avaient-ils eux-mêmes subi de pareilles blessures. Mais comme dans leur analyse didactique, ils avaient été traités avec la neutralité prescrite par Freud, ils n'ont pas eu l'occasion de déceler leurs propres souffrances niées. Pour y parvenir, il leur aurait fallu un thérapeute non pas neutre, mais prêt à prendre parti. Un accompagnateur qui se met complètement du côté de l'ancien enfant, martyrisé et s'indigne du traitement inique qu'on lui a infligé avant même que le patient ou la patiente n'en soit personnellement capable. Au début de la thérapie, en effet, ceux-ci ou du moins la plupart d'entre eux, n'éprouvent pas la moindre indignation. Ils révèlent, certes, des faits choquants, mais sans s'en offusquer, non seulement parce qu'ils sont déconnectés de leurs sentiments, mais parce qu'ils ignorent qu'il peut exister des parents se conduisant différemment. Mon expérience m'a amplement montré que ma sincère indignation de ce qu'on a fait endurer au patient ou à la patiente dans son enfance a constitué un important véhicule de la thérapie. C'est particulièrement visible dans les groupes. Par exemple, quelqu'un raconte calmement, voire en souriant, qu'on l'enfermait pendant des heures dans une cave sombre pour avoir contredit ses parents. Dans le groupe s'élèvent des murmures apitoyés. L'intéressé, cependant, n'en est pas encore là. Il est incapable d'établir une comparaison. Pour lui, cette sanction est normale. Mes consœurs n'étaient devenus capables d'aider leurs patients qu'après avoir été encouragés à accepter leurs propres sentiments et exprimer l'indignation suscitée en elles en leur qualité de thérapeute par les perversions des parents de ces patients. L'effet fut souvent spectaculaire, comme si l'on avait fait sauter le barrage qui jusqu'alors endiguait le fleuve. Parfois, l'indignation de la thérapeute était aussitôt partagée par le client, déclenchait une véritable tornade. Pour certains, en revanche, il fallut des semaines, des mois, voire des années. Mais la franchise manifestée par le témoin a mis en marche un processus bloqué auparavant par les principes moraux de la société. L'attitude engagée, plus libre, de la thérapeute avait entraîné cette révolution en montrant à l'ancien enfant qu'il avait le droit d'être horrifié du comportement de ses parents et que toute personne sensible en serait horrifiée, à l'exception de ceux qui avaient été eux-mêmes des enfants martyrisés. Il est fort possible que certains d'entre eux pensent ne pas avoir le droit d'exprimer leur indignation puisqu'ils ont appris dans leur formation qu'ils doivent impérativement s'en abstenir. À l'école freudienne, ils ont même appris à considérer leurs sentiments comme un contre-transfert, c'est-à-dire uniquement comme des réactions aux sentiments du patient. Ils se sont donc habitués à ne pas percevoir et à ne pas exprimer leurs propres sentiments, leurs réactions simples et compréhensibles devant la cruauté. Dans une telle thérapie, le patient reste prisonnier de sa peur infantile, n'ose pas extérioriser ses émotions libératrices et vivre sa colère, son indignation, comme une façon normale de réagir à la cruauté et la perversion. Je voudrais donc encourager les thérapeutes à se conformer à leurs propres sentiments, ne pas tomber dans l'erreur de les interpréter comme un contre-transfert, mais les prendre au sérieux, y adhérer et les formuler. Il ne leur sera pas trop difficile de laisser émerger leur indignation, car, à la différence de leurs patients, il ne s'agit pas de leurs propres parents, et ils pourront plus aisément refuser de qualifier de comportement normal telle ou telle forme de perversion. N'importe quel thérapeute peut vérifier par lui-même mes affirmations. Je ne lui conseillerais en aucun cas de faire quelque chose qui ne correspond pas à ses sentiments et dont il n'est pas convaincu de par sa propre expérience. La tendance générale à éluder l'indignation est compréhensible, car ce sentiment peut éveiller chez nombre d'entre nous la vieille sensation d'impuissance de l'enfant et les souvenirs de l'époque où il était livré sans issue et sans avoir le droit de se défendre au sadisme des adultes. Il est compréhensible que nous préférions ne pas en entendre parler et nous borner à qualifier de monstres les gens qui commettent de tels actes. Mais comme aujourd'hui nous avons affaire face à une croissante menace terroriste, nous ne pouvons pas nous permettre de diaboliser les pervers sans vouloir comprendre comment on en a fait ce qu'ils sont. Si nous n'apprenons pas à percer à jour ces mécanismes et à empêcher les parents d'exercer de perverses pratiques éducatives, l'humanité finira par payer de sa survie cette stupéfiante ignorance. Le fait de montrer de la compassion et de l'indignation face aux épreuves de la patiente ou du patient, c'est permettre, en tant que psy, de jouer le rôle de témoin lucide. Alors, qu'est-ce qu'un témoin lucide ? En fait, c'est un terme qui a été spécifiquement créé par Alice Miller et dont je vais vous partager la définition. Le témoin lucide peut jouer dans la vie de l'adulte un rôle analogue à celui du témoin secourable auprès de l'enfant. J'entends par là une personne qui connaît les répercussions du manque de soins et de la maltraitance dans les premières années. De ce fait, elle pourra prêter assistance à ces êtres blessés, leur témoigner de l'empathie et les aider à mieux comprendre les sentiments incompréhensibles pour les intéressés de peur et d'impuissance issus de leur histoire, et leur permettre ainsi de percevoir plus librement les options dont aujourd'hui, adultes, ils peuvent disposer. Parmi les témoins lucides, on compte un certain nombre de thérapeutes, mais aussi des enseignants, des avocats et des auteurs instruits de ces problèmes. Personnellement, je me considère comme un auteur qui se donne pour but, entre autres objectifs, de communiquer à ses lecteurs des informations encore frappées de tabous. Je voudrais également permettre aux professionnels exerçant dans divers domaines de mieux comprendre leur propre vie et de devenir ainsi des témoins lucides pour leurs clients, leurs patients, leurs enfants, et ce n'est pas le moins important pour eux-mêmes. Fin de citation. Autre raison pour expliquer le côté démissionnaire de certains psys, il faut prendre en considération le fait que la problématique du parent toxique est encore taboue dans notre société. Très peu de professionnels sont formés là-dessus. C'est pour cela que les psys, parce qu'ils manquent de connaissances à ce sujet, ont tendance aussi à considérer votre cas comme un cas parmi tant d'autres et donc à appliquer leur théorie générale à un cas particulièrement spécifique, dont les études, les recherches restent encore très rares. Cette émission touche à sa fin. Comme d'habitude, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a éclairé sur les raisons de vos expériences peu fructueuses avec vos psys. Si vous êtes concerné, du plus profond de mon être, je vous souhaite bon courage en espérant que vous trouverez rapidement le psy adapté à vos besoins. Je vous remercie pour votre fidélité, vos encouragements et vos témoignages qui me font chaud au cœur. Merci beaucoup. Cette semaine, j'ai encore reçu des super témoignages sur les réseaux sociaux concernant d'incroyables prises de conscience déclenchées suite au podcast. C'est toujours super encourageant, ça me donne de la force et ça me booste toujours autant. Donc merci, merci, merci. Allez, je ne résiste pas à l'idée de vous partager un témoignage. À partir d'aujourd'hui, chaque semaine, je vais vous honorer et vais prendre le temps de lire un témoignage en respectant l'anonymat et l'ordre d'arrivée. Comme ça, il n'y a pas de jalouse ni de jaloux. C'est parti pour le premier témoignage qui nous vient tout droit des États-Unis, plus spécialement de Rhode Island. Super intéressant, Nadia. Merci de partager tout ça sur les ondes. Very helpful. Merci beaucoup pour ce témoignage qui me fait super plaisir et pour ton 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Franchement, ça me fait plaisir et un grand merci pour votre confiance et un grand merci de partager vos témoignages. Vraiment merci. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez le lien pour en faire profiter le plus de monde possible. Vous l'avez compris, si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire pour que Détox Parents Toxiques gagne encore plus en visibilité. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Ciao! It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all